Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je n'ai pas un accent québécois, mais picard, mais mémoire, je vais faire qui revient en situation de stress. Alors, à échanger donc sur cette question des liens entre travail et pathologie psychiatrique, et plus précisément sur les bénéfices potentiels du travail sur le plan psychique. Alors, moi, j'ai parlé de ma place, c'est pas celle d'un psychologue du travail, ni d'un médecin du travail, ni même d'un psychiatre travaillant dans un ESAT, et celle d'un médecin qui travaille dans un service de réhabilitation, dont la fonction est souvent d'accompagner les personnes que nous rencontrons dans le monde du travail, ce que nous demande un grand nombre de personnes qui viennent nous voir. Par ailleurs, une des particularités du service dans lequel je travaille, outre le fait de s'appuyer sur des chargés d'insertion, parce que c'est une singularité pour un service de soins, on en est amené concrètement ce type de projet, c'est qu'il dispose aussi d'ateliers thérapeutiques, qui sont des espaces au sein desquels une médiation de type travail, un atelier d'horticulture, un atelier d'espace vert, de rénovation de meubles, de sous-traitance, donc des ateliers qui offrent une médiation de type travail, est proposée aux personnes qui le souhaitent, en particulier ceux qui souhaitent s'éprouver dans un espace aux allures de travail, avant de se confronter au vrai monde, entre guillemets, du travail. Alors ce qui m'a fait demander de réfléchir aux bénéfices psychiques du travail, c'est-à-dire au vu de l'avant-propos du colloque, de me faire un peu l'avocat du diable. Hein. Donc la question que j'ai modestement essayé de traiter, c'est en quoi le fait de travailler est potentiellement bon pour la santé mentale, sans m'ériger pour autant en pourfendeur de l'oisiveté et du non-travail, qui constituent selon moi des dimensions aussi très bénéfiques de l'existence. Alors, poser la question des liens travail-santé psychique présuppose d'emblée l'existence d'un lien fort entre le travail, le fait de travailler, plus largement, la santé mentale, le bien-être ou le mal-être psychique. Ce qui va tout à fait dans le sens de ce que dit Christophe Dejour dans l'un de ses livres, quand il écrit que le rôle du rapport au travail dans les maladies mentales, aussi bien que dans la construction de la santé, est beaucoup plus important qu'on ne l'admet généralement. Il rajoute qu'il n'y a jamais de neutralité du rapport au travail au regard de la santé mentale. Et du même Christophe Dejour, si le travail peut générer le pire, il peut également générer le meilleur. Ainsi, et je le cite toujours, le travail ne peut pas être tenu seulement pour un malheur socialement généré, à l'origine de toutes les affections somatiques et mentales les plus vicieuses. Les dégâts mentaux occasionnés par le chômage sont là aussi pour témoigner du contraire. Alors, sans tomber dans une apologie béate du travail, une place semble donc possible pour penser les effets bénéfiques du travail. Alors, je vais essayer de réfléchir avec vous sur les bénéfices du travail pour les personnes qui font des groupes psychiatriques, et en particulier psychotique, schizophrénie ou trouble apparenté, en discutant les bénéfices potentiels du travail selon six petits axes ancrés dans la psychopathologie de cette incompréhensible maladie. Alors je vous propose de discuter à chaque fois, mais très succinctement, en quoi le travail peut faciliter, premièrement, l'installation d'un processus de quotidianisation, une source de confort pour chacun de nous. Deuxièmement, contribuer à ancrer la pensée dans la réalité et écarter le sujet d'une pensée dissociative. Troisièmement, peut constituer un vecteur de communication chez les personnes qui, parfois, à un moment donné de leur vie, présentent des difficultés à communiquer de façon fluide sur le plan verbal. Quatrièmement, peut favoriser le réancrage dans la sensation, dans le plaisir, et donc contribuer à resubjectiver l'expérience. Cinquièmement, le travail peut contribuer à davantage de confort relationnel, et enfin, favoriser l'établissement cérébral sur chacun de ces points, qui sont évidemment sans doute liés entre eux et l'existence même artificielle de les séparer. Alors, première fois, l'activité de travail comme favorisant la quotidienneté. Alors, il n'est pas rare, et loin de là, que les personnes qui font, à un moment donné de leur vie, des psychoses ou des psychoses, présentent comme singularité de leur rapport au monde, que certains phénoménologues, comme Erwin Strauss, ont appelé une perte des axiomes de la quotidienneté. Il faut entendre par perte des axiomes de la quotidienneté une particularité du rapport au monde, qui, je crois, est vraiment une source de souffrance, caractérisé par un vécu de perplexité face au monde, un vécu d'absurde que le sujet ne dépasse pas et qui aboutit dans un certain nombre de cas au fait de se poser des questions sur tout et n'importe quoi. Donc pourquoi le bleu du ciel est bleu? Pourquoi une table s'appelle une table? Et je rencontre tous les jours des personnes qui sont prises par ce genre de questionnement. Chez ces personnes, à un moment donné de leur vie, rien ne semble aller de soi et tout devient sujet à d'interminables questions sans fin qui tenaillent le sujet dans une forme de recherche d'intelligibilité du monde qui nous laisse peu de répit. Il peut résulter de cette hyper-réflexivité une grande fatigue, voire un épuisement. C'est comme si la italienne Silasi appelait asthénie psychotique. Lié à cet exercice intellectuel quasi constant, que certaines personnes ne peuvent pas ne pas avoir. Et je me souviens toujours d'une personne que j'ai rencontrée aux urgences, qui avait une tentative de suicide. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe, comme il se geste là, elle me dit, je n'en peux plus de devoir tout le temps penser. Je n'en peux plus de devoir tout le temps penser. Toujours essayer de comprendre le monde qui ne peut pas. Alors Minkowski, un psychiatre français, parlait d'ailleurs de rationalisme morbide pour désigner cette position subjective, expliquant que chez un grand nombre de personnes qui font une schizophrénie, les sujets oublient, selon le mot de Pascal, que la vie a ses raisons, que la raison ne saurait expliquer, et s'épuise dans une tentative solitaire de comprendre l'indéchiffrable. Alors chez ces personnes, pour paraphraser Schultz, la région de la réalité qui semble touchée, c'est cette région de la réalité que l'adulte éveillé et habituel prend simplement comme allant de soi dans l'attitude du sens commun. Aller de soi, cela signifie pour le quotidien qu'il est hors de question, plutôt qu'il apparaît hors de question. Se pose alors la question de comment s'instaure cet aller de soi d'expérience, que je ne me demande pas pourquoi une table s'appelle une table, pourquoi le bleu du ciel est bleu. Se pose alors la question de comment s'instaure cet aller de soi d'expérience, qui ne semble pas s'instituer à un moment donné de leur vie chez un grand nombre de personnes qu'on rencontre, qui sont de tout psychotique. Et c'est ici que les apports d'un auteur comme Bruce Bégaud me semblent vraiment tout à fait intéressants. Alors, pour Bruce Bégaud, un des aspects fondamentaux de notre condition humaine, en fait, c'est en réalité d'être confronté à un monde indéchiffrable, qui n'a pas de sens, qui est absurde. Ce que dit Bégaud, c'est que le monde est, assurément, ça ne fait aucun doute, mais le monde n'est pas sûr. Ce n'est pas son être qui est douteux, c'est son mode d'être. Le monde, c'est en réalité une réalité informe et chaotique, le monde ouvert, incertain et instable, le réceptacle branlant de toute vie. Ça, ça pourrait être même du Camus. Le mode d'être de cette conscience, c'est l'inquiétude. Cependant, si la conscience de l'absurde, c'est-à-dire celle de l'indéchiffrabilité du monde, est intenable, elle ne nous apparaît, en plus bizarrement en général, que très peu, voire pas du tout, sauf dans certaines situations. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il existe un processus qu'on peut appeler quotidianisation, dont la fonction est de produire, justement, de l'évidence naturelle, de la quotidiennité. Et ce que dit Bégaud, c'est que le travail de quotidianisation de l'expérience tend alors essentiellement à transformer incognito le monde, indéchiffrable, en un environnement certain et évident. Il fabrique une évidence naturelle et soulage la personne d'une grande détresse. Quotidianiser, c'est donc assimiler jour après jour le monde hostile à travers tout un filtre de croyances et d'objets, de figures et de symboles qui donnent prise sur la réalité. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est sur quoi repose la quotidianisation. On n'a pas le temps d'aller dans le moment. Peut-être que pour Bégaud, à l'origine de toute fabrication du quotidien, se trouve l'habitude. Elle représente l'agent principal de la domestication de l'étrangeté originelle du monde, seul l'exercice habituel quotidianisme. Une habitude dans laquelle le sujet est à la fois passif, c'est-à-dire soumis à des récurrences objectives d'événements, et actif, dans le sens qu'il doit faire quelque chose. Ainsi, pour Bourdieu, l'habitude, c'est à la fois acquisition d'une structure structurelle, celle du monde, et production d'une structure structurante. Dans l'habitus, il y a reproduction et production, à une œuvre du soliste, par exemple, qui chaque soir joue le même concerto. D'où un cercle de l'habitude qui se pose une dialectique entre exposition à une régularité objective, je dois jouer ce concerto ce soir, et une mise en position d'acteur qui reprend cette notion de pouvoir d'agir. Alors on voit bien, c'est un premier point, comment l'activité de travail, pour peu que le cadre de travail soit un minimum structuré, offre des régularités claires, constituent évidemment un contexte tout à fait propice à l'instauration d'habitudes, et en cela peut tout à fait constituer un lieu très rassurant, je crois, pour nous tous, mais aussi pour un grand nombre de personnes qui souffrent à un moment donné des troubles psychotiques, en nous prenant le pourvoyeur d'évidence naturelle du fait des régularités qui les caractérisent, récurrence dans le temps, dans l'espace et au niveau des finalités pratiques des activités, et en limitant l'isolement, pourvoyeur d'une moindre confrontation à des régularités objectives, et en plaçant le sujet en situation d'acteur face à ces régularités. Voilà, je crois du moment que le contexte de travail n'est pas chaotique, que les missions soient à peu près claires et en partie prévisibles, alors le travail peut constituer un espace très sécurisant pour les personnes qui, en ont eu leur vie, souffrent de psychose. Je rencontre tous les jours des personnes qui ont appris des ateliers thérapeutiques, certains espaces de travail font énormément de bien à ce niveau-là. Il s'agira ensuite, évidemment, une fois cette sécurité installée, de veiller à ne pas tomber dans une ritualisation mortifère du travail c'est-à-dire un éternel retour du même, des mêmes journées, car quotidianiser, c'est aussi injecter en permanence du nouveau, rendu lui-même, nouveau silencieux. Autrement, on se retrouve un peu dans le sein intérieur de la montagne magique de Thomas Mann, dans lequel toutes les journées se répètent et aboutissent à un état presque de somnolence. Voilà, pour ce premier point, la quotidianisation. Deuxième point, peut-être que le travail aussi contribue, et c'est en cela que ça peut être une source de bien-être, à une invitation à une pensée tournée vers la réalité. Alors, je prenais comme premier départ Eugène Bleuler, le grand psychopathologue, qui a introduit en 1911 le terme de schizophrénie. Alors, on faisait une description indépassée, seul le terme est peut-être à changer. L'un des organisateurs de notre pensée, c'était dit Bleuler, est qu'elle est subordonnée à un but. Même un écrivain, aussi rêveur qu'il soit, ne perd jamais à un moment donné la finalité pratique de son activité. Construire une phrase, un paragraphe, même réunir un chapitre, de façon à aboutir à un écrit, qui s'appelle un livre, contacter un éditeur et essayer de le publier pour gagner un peu d'argent pour pouvoir manger. Comme dit Bleuler, seule la représentation de but transforme des séquences de concepts en pensées. Alors il se trouve que justement, peut-être qu'une des particularités de la pensée schizophrénique, si bien écrite par Bleuler, qu'on connaît en définitive assez peu, c'est justement de s'affranchir de la notion même de but, qui cependant est quand même de l'ancrer dans la réalité. Et bien des personnes qu'on rencontre, que l'on rencontre tous les jours, présentent une pensée à un moment donné de leur vie, vague, abstraite, parfois difficile à suivre, et qui se caractérise par le fait que les mots sont associés davantage par assonance, donnant l'impression d'un discours abstrait, flou, parfois cependant, il faut bien le dire, poétique. C'est là ce qu'on peut désigner comme un trait central de la dissociation schizophrénique, que Bleuler appelait l'autisme schizophrénique, qui n'a rien à voir avec le programme autisme. Ce que dit Bleuler, c'est de même que le sentiment autistique est détourné de la réalité, la pensée autistique a ses propres lois, elle use certes des rapports logiques ordinaires, tant que cela lui convient, mais il n'est absolument pas lié par eux, il pense par symbole, par analogie, par concept incomplet, par association fortuite. Alors si tant est que cette façon de penser puisse constituer une richesse, je crois que ça peut aussi l'être, il est également évident qu'elle peut conduire à un appauvrissement de l'existence quand on parle du sujet de la réalité et de ses semblables avec qui communiquer devient de plus en plus difficile. Et on voit bien alors, dans l'accompagnement quotidien des personnes qui font une psychose, que l'activité de travail, pour peu qu'elle implique des actions concrètes à mettre en place, ou dans le service, par exemple, pour des ateliers de la culture de plantes, la création de massifs de fleurs, la rénovation de meubles, offre une véritable rééducation de la pensée, un réancrage de ce dernier dans la réalité, puisqu'elle invite le sujet à penser en lien avec des conséquences concrètes en termes d'action. Dans cette optique-là, je pense que le travail peut favoriser la réinscription dans ce qu'on peut appeler la réalité et préserve le sujet d'une condition psychotique qui deviendrait un petit peu, qui prendrait trop de place en quelque sorte dans le fonctionnement subjectif de la personne. Alors évidemment, pour que ça puisse fonctionner, pour que l'activité de travail ait un minimum de sens pour la personne, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans des choses qui plaisent, qui font plaisir, au risque de contribuer à l'émergence d'un sujet davantage certes inscrit dans la réalité, mais de façon robotisée et désincarnée. Troisième point, le travail et l'action comme support de communication. Pour beaucoup de personnes qui font, à un moment donné de leur vie, des petits petits, faire part de leur intériorité n'est pas chose aisée. Soit du fait que ce qu'ils vivent est difficile à mettre en mots, personnellement, enfin, je crois que si on faisait une expérience psychotique, on aurait beaucoup de mal à la mettre en mots, soit du fait aussi de difficultés de symbolisation. Alors, une façon d'exprimer ce qui se passe, néanmoins, peut passer par le concret. Et nécessite des supports concrets quotidiens. Et sur Lyon, c'est sans doute Marcel Sassolas, l'un de ceux qui a le plus exploré cette question, en prenant l'utilisation de supports concrets pour entrer en relation avec les personnes qui, à un moment donné de leur vie, souffrent de psychose. Comme il le souligne dans ses nombreux articles, la réalité quotidienne permet la communication. Et tant que le patient n'a pas la possibilité de parler notre langue, ce qui va arriver, celle dont les vecteurs sont les mots et les symboles, c'est à nous d'accepter de parler la sienne, dont les vecteurs sont les actes et les choses. Alors évidemment, le travail offre un support concret et peut constituer le support d'une communication qui ne passe parfois pas trop par le langage et que, pour peu qu'on se donne les moyens de décrypter ce qui s'y joue, peut constituer une formidable médiation pour échanger et rencontrer les personnes. Cette approche reste cependant pertinente lorsqu'il s'agit de penser les liens entre travail et soins, car il implique quand même une reprise sur le plan psychologique de ce qui s'est produit dans l'espace de travail. Et moi, je penserais toujours à une personne que j'ai suivie extraordinaire, qui a beaucoup de mal à parler. Les entretiens ne peuvent pas durer très longtemps. C'est peut-être un lieu à m'aider à travailler à ses pouvoirs. il s'est parlé qu'à ses difficultés à lui, mais par contre, il racontait souvent, les encadrants de l'atelier écrivaient que le café était quelque chose d'extrêmement important pour lui. Le café,
c'est sûr.
Et il avait besoin de prendre son café à 9h précise, à 10h45, à 13h. Et s'il ne l'avait pas, alors ça pouvait aller très mal pour lui. Mais s'il l'avait, ça allait très bien. Ça, il pouvait le dire, puis on pouvait le voir. Hein. Et je crois que cet homme-là, c'est ce qu'il a dit ensuite, quand il a rentré dans une entreprise, on a expliqué que le café, c'est très important. Essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Enfin, je crois que le monde pour lui avait quelque chose d'extrêmement justement flou, angoissant, etc., et qu'il a besoin de repères. Je crois qu'on a peut-être besoin, peut-être lui encore plus que nous, pour que sa journée soit suffisamment sécrétaire. Mais c'est que malgré tout, on pouvait le voir. Et ça, c'est le concret qui nous a permis aussi de comprendre un petit peu ça, et puis aussi d'échanger avec eux à ce niveau-là. Quatrième point, le travail comme favorisant le réancrage dans la sensation, le plaisir, et contribuant à resubjectiver l'expérience. Alors, une autre dimension centrale du groupe psychotique réside souvent dans l'altération de la sensation de plaisir. Eugène Minkowski insistait beaucoup sur ce point en décrivant que chez un grand nombre de personnes, il existait une diminution, à un moment donné, de la catégorie du sentir. Ces altérations sont sans doute tant véhiculées par la pathologie, mais en ce sens, qu'elles sont peut-être primaires, que secondaires aussi à l'exclusion des personnes du champ d'un grand nombre d'activités plaisantes, des échecs scolaires, de la stigmatisation, etc. Je crois que l'exclusion du sujet de la sphère du plaisir, du désir, et de toute la créativité qui va avec, alimente sans doute de façon importante les phénomènes de désubjectivation qu'on retrouve dans ces troubles, c'est-à-dire la sensation d'exister comme un sujet désirant. Sans désir, sans pouvoir affirmer plus ou moins consciemment ce que je veux, ce que je souhaite faire, et tenter de s'inscrire dans ce désir, difficile, je crois, pour chacun de nous de se sentir exister. Et je crois que l'activité de travail, dans le fond, pour qu'elle ait un domaine ou un support qui fasse sens pour la personne, qui fasse plaisir, pour qu'elle dispose la personne de marge de négociation pour jouer avec son travail, au sens que nous tiennent du terme, pour jouer avec son activité, permet de maintenir le sujet dans une action qui soit source de plaisir, et de jouer avec cela, en mobilisant éventuellement ses capacités de créativité, pour peu là encore qu'il puisse négocier avec son supérieur, dans les limites, ou la part raisonnable. Hein. Cinquième point, le travail comme l'espace collectif convivial. Je crois que bien des personnes qu'on rencontre ont besoin des autres. Je crois que 4 personnes sur 5 que je rencontre dans le service ont besoin. Soit qu'elles prennent leur jugement. Combien de personnes qu'on rencontre, du fait de l'arrivée d'un vécu psychotique à l'adolescence, au début de l'âge adulte, ont vécu une brimade de leur père, ont été mis de côté, ont été initialisés, ont donc appris à se méfier et à avoir leur communauté. Soit du fait d'altération même de la structure du soi, pour eux, à travers de laquelle l'autre devient potentiellement intrusif. On pourrait en discuter encore, mais tout ça conduit souvent à un sentiment d'isolement défensif par lequel le sujet se coupe des autres. Et sans doute du monde, car, comme dit Jean Genoux, il faut être deux pour faire un monde. Alors, une patiente que j'ai vue avant-hier, catégorisée par la psychiatrie comme retard intellectuel de léger avec défense obsessionnelle, après un parcours de 2 ans à l'atelier, je me disais, quand je lui ai demandé ce que l'atelier a apporté, elle dit, j'ai rencontré les gens bien. En parlant des autres personnes de l'atelier, de ses encadrants. J'ai rencontré les gens bien. Et elle a dit, c'était ça qu'elle retenait de son passage en atelier. J'ai rencontré des gens bien. Et sur cette base, elle s'est ouverte petit à petit à d'autres institutions non psychiatrisées dans Lyon, des associations dans lesquelles elle est en train de prendre sa place. Ainsi, pour peu qu'il ne soit pas régi par des mécanismes de défense rigides et qu'une convivialité quotidienne soit de mise, une certaine souplesse, de prendre le café le matin en arrivant, bénéficiant de temps informel pour discuter avec les collègues, que les postes déjeuner soient sympas, qu'il n'y ait pas trop d'enjeux de compétition au sein de la structure de travail, que les rôles soient peut-être relativement bien définis, des limites assez claires sur ce que l'autre peut me faire ou pas, et qu'un sens partagé guide et structure l'activité collective, je crois que l'activité de travail peut être un profond mobilisateur du lien social et un lieu de réassurance et de découverte que les autres ne sont pas forcément des amis, mais aussi des frères. Et puis dernier point, un pilier pour le rétablissement, vous l'avez évoqué. Je crois qu'une embûche que rencontrent beaucoup les personnes suivies en psychiatrie, c'est la dimension profondément stigmatisante des suivies en psychiatrie. Il y a affublé de mots tels que schizophrénie, que j'ai moi-même employé, hystérie, donc, délire, je crois que ça ne fait pas plaisir de s'entendre qualifié de la sorte. Et je crois que travailler dans nos sociétés, et plus en milieu ordinaire, ce que mes citants, faire, c'est une assurance de ne pas être englobé dans l'identité de malade psychiatrique, ce qui constitue un enjeu majeur pour l'établissement. Alors Larry Davidson, à Yale, il décrit bien ça dans ses travaux, comment le fait d'occuper des rôles dans lesquels l'identité de malade psychiatrique n'est pas convoquée permet aux personnes de s'engager plus facilement dans les soins psychiatriques. Car quoi qu'il arrive, la préconstitution d'espace normalisé, ou plus largement d'espace dans lequel le rôle joué n'est pas celui de malade psychiatrique, soulage la personne de la blessure narcissique qui représente le fait de s'engager dans le soin psychiatrique, qui nous toucherait aussi si à un moment donné, c'est une potentialité qui peut nous arriver, on tombe nous-mêmes malades, quantifiés. Et de jour le dit bien, toute cette dimension aussi valorisante pour le travail, ceux qui sont privés du travail par le chômage, sont privés du droit d'apporter une contribution à l'entreprise, à la société, voire à la culture. Et en retour, ils sont privés des gratifications majeures, de la reconnaissance, qui a été beaucoup évoquée tout à l'heure, dont la plupart des hommes se passent difficilement pour acquérir une estime de soi, voire pour s'aimer soi-même. C'est la collègue de Grenoble qui est intervenue ce matin, qui parlait beaucoup de qu'un des facteurs les plus importants du travail, c'est la reconnaissance. Voilà, alors en conclusion, pour peu que ces conditions, semble-t-il, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, soient réunies, un lieu marqué par certaines habitudes, dans lesquelles le sujet est mis en position d'acteur, un lieu marqué par des tâches pratiques et concrètes, un lieu marqué par des tâches plaisantes, amusantes, riches de sens, un lieu collectif marqué par la convivialité, et un lieu pas trop stigmatisé par l'identité de mal psy. Je crois que le travail peut être une source de bien-être et d'épanouissement pour les personnes qu'on suit, pour les patients. Et j'allais dire au fond, pour nous tous, comme ça. Alors voilà, pour conclure, j'ai rapidement cité Georges Genoux, j'avais envie de finir avec lui, avec une phrase tirée d'un de ses romans, qui touche à la question du travail, qui s'appelle « Que ma joie demeure » dans le Jésus. Et en fait, c'est un roman qui se passe dans le monde paysan, où c'est des paysans qui s'emmerdent. Ils font leur labeur quotidien, ils économisent le grain pour l'année suivante, ils s'ennuient profondément. Et arrive un type qui leur apprend à reprendre plaisir au travail, en leur montrant tout l'intérêt qu'il peut y avoir à planter des iris, à laisser un cerf gambader dans leur champ, alors que ça ne sert strictement à rien. Et donc, voilà, une phrase tirée d'un de ces romans qui touche justement à cette question du travail, parce que je crois profondément que pour que le travail puisse être épanouissant, justement, il est nécessaire de consentir au sein des entreprises à laisser une certaine place à l'inutile, à cet inutile justement au sens de Genoux, c'est-à-dire à tout ce qui ne rapporte pas d'argent, même si évidemment ça fait partie des apports du fonds, et qui se situe aussi un peu à distance des enjeux de productivité et plus à proximité des enjeux de créativité. Parce que, comme dit Genoux, la joie, c'est la jeunesse, et la jeunesse, ce n'est ni la force, ni la souplesse, ni même la jeunesse, comme tu disais, non, la joie, c'est la passion pour l'inutile.